France Culture.
Et tout de suite, on fait le point sur l'information. C'est le journal de la rédaction avec Thomas Cluzel. Rebonjour Thomas.
Rebonjour Marie, bonjour à toutes et à tous. Pourrait-il que les Américains plantent une bonne fois pour toutes leur drapeau sur la banquise du Groenland? C'est du moins ce que laissent entendre les déclarations quasi bellicistes de Donald Trump hier soir. Le président a réitéré ses projets d'annexion de l'île de l'océan Arctique. Nous serons en direct de Copenhague dès le début du journal. Puis on tâchera par ailleurs d'évaluer la nature exacte de cette menace avec notre invité spécialiste de la sécurité du Groenland. On se rendra par ailleurs en Ukraine, plus exactement à Odessa, à 150 km du front où les habitants vivent dans l'angoisse permanente des attaques de l'envahisseur russe. On parlera également Mercosur, tandis que les ministres de l'agriculture des 27 se sont attendus aujourd'hui à Bruxelles pour répondre aux préoccupations du monde agricole. Enfin, nous serons à Saint-Tropez pour un ultime adieu à Brigitte Bardot en présence de quelques invités soigneusement sélectionnés. S'il y a quelques mois encore, à peine, la volonté de l'administration Trump de renommer le golfe du Mexique pouvait prêter à rire. Désormais, plus personne ne semble prêt, ne serait-ce même qu'à sourire face aux rodomontades répétées du très versatile locataire de la Maison-Blanche. Et c'est ainsi que 4 jours seulement après la démonstration de force unilatérale menée par les États-Unis au Venezuela, au mépris de tous les principes fondamentaux du droit international, voilà que déjà se pose la question de savoir si le néo-impérialisme débridé du milliardaire républicain pourrait prochainement décider du sort du Groenland. Hier soir, Donald Trump a dit en effet étudier plusieurs options pour acquérir le territoire autonome danois, y compris utiliser l'armée. Hajra Mohamad, bonjour.
Bonjour.
Envoyé spécial à Copenhague. Récemment, le gouvernement danois avait pourtant appelé à des pourparlers rapides avec les États-Unis dans l'espoir de dissiper donc les malentendus. Or, évidemment, le ton extrêmement déterminé, presque va-t-en-guerre, hier soir de la Maison-Blanche, tranche avec les appels au dialogue.
Oui, à cette heure-ci, nous n'avons toujours pas de réaction officielle danoise sur ces dernières déclarations de Donald Trump au Danemark. Les élus, les ministres pèsent chaque mot avant de réagir encore plus sur un dossier aussi sensible. Alors, si la première ministre danoise rappelle depuis plusieurs jours fermement que le Groenland n'est pas à céder, Mette Frederiksen tend aussi la main et propose de nouvelles coopérations aux États-Unis sur cette île. Le gouvernement danois rappelle d'ailleurs que de nombreux accords existent déjà avec Washington depuis la fin des années 1950. Sur la défense d'abord, avec l'immense base militaire américaine de Pitufik installée sur place. Des accords commerciaux aussi. Concrètement, aujourd'hui, si une entreprise américaine veut s'implanter au Groenland pour procéder par exemple à des forages, extraire des minerais, elle aura un feu vert des autorités danoises. Et enfin, il y a aussi des échanges culturels. En réalité, les Américains peuvent déjà faire ce qu'ils veulent sur place, me résumait un expert. Donc, que veulent-ils de plus? C'est la question que se posent désormais les Danois. S'il s'agit de mettre la main sur l'île Arctique pour en avoir le contrôle total et exclusif, ce sera toujours non, a rappelé hier la première ministre du Danemark et son homologue au Groenland.
Merci, Hajra Mohamad, en direct de Copenhague. Alors, face aux menaces de Donald Trump, pour l'heure, c'est vrai que les Européens serrent les rangs derrière le Groenland. Cela suffira-t-il pour autant à stopper les ambitions du président américain? Lui a-t-elle seulement les ressources nécessaires pour s'opposer frontalement aux États-Unis? Pour le savoir, invité de la rédaction à présent, Cécile Peloudex, chercheuse associée au laboratoire Pacte de Sciences Po Grenoble, par ailleurs spécialiste de la sécurité du Groenland. Bonjour madame.
Bonjour, merci de me recevoir à votre antenne.
Seulement 4 jours, donc je le disais, après l'opération américaine au Venezuela, tous les regards sont déjà tournés vers cette autre cible des appétits expansionnistes de Donald Trump. Très concrètement, peut-être tout d'abord, est-ce que l'on peut se figurer à quoi ressemblerait une tentative d'annexion du Groenland par les États-Unis?
Alors, si on se place dans cette perspective qui est aujourd'hui uniquement une possibilité, une probabilité, et qui serait trop risqué de ne pas considérer sérieusement, une prise de contrôle du territoire groenlandais par les États-Unis serait, d'un point de vue opérationnel, relativement simple. Les États-Unis disposent d'une base Pitufik avec un port en eau profonde, une base aérienne, une piste d'atterrissage. C'est pas très compliqué. Ce qui est compliqué, c'est le risque politique que représenterait une telle annexion.
Pour justifier ces vues, Donald Trump, on le sait, brandit notamment l'argument que la Russie et la Chine seraient déjà en train d'encercler militairement la région. Est-ce que c'est le cas tout d'abord? Et puis ensuite, pourquoi cherche-t-il à avancer cette justification en particulier?
Alors, la prolifération de bateaux russes et chinois autour du Groenland, c'est une fiction. On a vu par contre au large des côtes de l'Alaska un certain nombre de bateaux russes et chinois, notamment 5 brise-glaces chinois l'année dernière. Donc la menace, elle n'est pas du tout autour du Groenland. Ce qui est néanmoins certain, c'est que la menace n'est pas nulle pour autant. Les Chinois qui se sont retirés un peu de projets d'investissement économique au Groenland développent néanmoins une puissance militaire et à terme, il faut néanmoins surveiller le Groenland. Mais ça ne veut pas dire que l'annexion militaire du Groenland est justifiée par les Américains.
Si effectivement les États-Unis venaient à déclencher une opération contre le Groenland, c'est-à-dire contre le Danemark, en réalité cela signifie que le principal contributeur de l'OTAN attaquerait pour la première fois un autre signataire de l'Alliance, que se passerait-il alors?
Ce serait effectivement très grave, c'est ce qu'a dit la première ministre danoise Mette Frederiksen, ce serait la fin de tout, donc on n'en est pas là. Il faut néanmoins dire que l'état de l'OTAN n'est pas ce qu'il était auparavant, que les États-Unis ont déjà clairement dit plusieurs fois que les Européens devaient assurer leur défense seuls. Donc que reste-t-il de l'OTAN? Pour l'instant, il y a beaucoup de volonté, effectivement, de faire pression de la part des États européens pour que une présence, en tout cas un soutien des États européens, soit fait pour en faveur de Groenland.
Et l'Europe a-t-elle effectivement les moyens de s'opposer à la volonté de Donald Trump?
Alors, on n'est pas dans la situation de l'Ukraine, c'est-à-dire que il n'y a pas de risque significatif et immédiat autour du Groenland. Donc, renforcer la sécurité du Groenland par des États européens en complément de la présence américaine, c'est tout à fait possible. Mais il faut pour ça que l'Europe repense son lien avec ses États-Unis, les États-Unis, qu'elle ait le courage de le faire, et puis qu'elle se pense aussi comme une Europe puissance.
Une dernière question en quelques mots. Diriez-vous qu'il y a aujourd'hui une volonté américaine de s'attaquer directement à l'architecture de l'UE, que Donald Trump cherche à s'attaquer à l'Europe à travers le Groenland?
Je pense que le Groenland, c'est un peu distinct. Le Groenland, il y a plusieurs raisons qui motivent les ambitions américaines. C'est à la fois une annexion dans le cadre d'un impérialisme territorial, mais c'est aussi des intérêts économiques avec les terres rares. En ce qui concerne l'Europe, c'est pour les États-Unis un obstacle au développement du libéralisme sans limite. Et pour l'instant, on voit bien que les Américains cherchent à dénigrer l'Union européenne. Ils l'ont fait à travers le discours de J.D. Vance en mai 2025. Et c'est très clair aussi dans la nouvelle stratégie de sécurité américaine du mois de novembre.
C'est bien noté. Merci Cécile Peloudex, chercheuse, je le rappelle, associée au laboratoire Pacte de Sciences Po Grenoble, d'avoir répondu donc à notre invitation. Merci également à Loïse Guérin pour la préparation. Alors évidemment, la capacité des Européens à s'opposer aux États-Unis ne saurait faire l'économie d'un contexte géopolitique particulier avec la guerre en Ukraine et la menace russe. Hier, les 35 pays membres de la coalition dite des volontaires essentiellement européens se sont accordés pour déployer une force multinationale en cas d'accord de paix, toujours évidemment très hypothétique, trouvé avec la Russie. En revanche, la contribution des États-Unis en matière notamment de renseignement, de logistique et surtout leur engagement à apporter un soutien à la force en cas d'attaque, qui figurait pourtant dans le projet de déclaration initiale, a disparu du texte final, de sorte que les contours de leur engagement militaire demeurent encore extrêmement flous. En attendant, et même si l'Ukraine n'a subi, c'est vrai, que quelques attaques aériennes ces derniers jours, beaucoup redoutent un calme précaire avant la tempête. Les civils sont aujourd'hui plongés dans une attente angoissante et tout particulièrement d'ailleurs ceux qui vivent dans des tours d'habitation aux plus hauts étages, régulièrement frappés par les attaques de l'envahisseur. La vie à hauteur de drone, c'est un reportage à Odessa signé du correspondant de RFI pour France Culture, Théo Renaudon.
Le bourdonnement d'un drone qui passe à quelques centaines de mètres de la fenêtre de cette Ukrainienne paniquée, habitante du dernier étage de son immeuble. Des enregistrements comme ceux-ci apparaissent à chaque attaque russe. Ok, ça c'est la vue, on a une vue effectivement sur toute la ville. Dimitri vit avec sa femme au 16e étage dans la banlieue d'Odessa.
Un drone a touché cet appartement, juste en face, à environ 300 mètres. Là, dans l'angle, c'est le point d'impact le plus proche. Et souvent quand tu dors, tu te fais réveiller par l'alerte aérienne. Alors tu dois te lever du lit, t'habiller, sortir ta famille. Tout ça demande du temps. Quand un missile balistique vient, il ne met même pas 5 minutes à arriver depuis la Crimée.
Attention, alerte aérienne, rendez-vous au refuge le plus proche.
5 minutes, très insuffisant pour descendre les 16 étages de l'immeuble, souvent privé d'électricité et donc sans ascenseur.
Peut-être que nous voudrions partir, mais pour changer de lieu de vie, il faut de l'argent. Pour louer un appartement, il faudrait trouver un autre travail.
La famille est donc prisonnière du ciel à la merci des drones russes.
Un reportage à Odessa signé Théo Renaudon.
Le président iranien appelle ce matin les forces de l'ordre à ne prendre aucune mesure à l'encontre des manifestants.
Oui, plus exactement, le dirigeant appelle à distinguer les manifestants de ceux qu'il nomme les émeutiers. Et d'ailleurs, à Téhéran, la répression s'est notamment intensifiée autour des campus, ravivant ainsi la colère d'une jeunesse toujours aussi contestataire sur fond d'effondrement économique. En revanche, en l'absence d'une véritable opposition unifiée, ce nouveau cycle de protestations peine à laisser percevoir la moindre perspective d'un changement de régime.
Midi et 41 minutes sur France Culture, la suite de votre journal, Thomas Cluzel.
Après un report le mois dernier, sous la pression notamment de la France et de l'Italie, Bruxelles entend toujours paraffer l'accord de libre-échange avec les États du Mercosur. C'est ainsi qu'une dernière réunion des ministres européens de l'agriculture a été organisée aujourd'hui pour tenter d'éteindre la colère paysanne, dès lors que de nombreux professionnels du secteur se disent inquiets de la possible concurrence accrue, le cas échéant, des pays d'Amérique latine. Alors hier déjà, la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, a fait un geste avec une rallonge budgétaire de 45 milliards d'euros pour la politique agricole commune, sauf que l'exécutif européen a encore besoin de s'assurer du vote dès 27 vendredi à la majorité qualifiée pour espérer donc une ratification définitive du texte lundi prochain, ce qui devrait a priori advenir à présent que la France se retrouve en grande partie isolée au sein de l'UE dans son refus de signer l'accord, notamment après que l'un de ses principaux alliés dans la bataille, l'Italie, a laissé entendre qu'elle devrait s'orienter vers un oui après avoir obtenu des avancées importantes. Précision depuis Rome de notre correspondant Bruno Duvic.
J'accueille avec satisfaction la décision de la Commission européenne. C'est un pas en avant positif et significatif. Ce n'est pas de l'accord avec le Mercosur que parle Giorgia Meloni dans ce communiqué hier en fin d'après-midi, mais de la rallonge budgétaire décidée par Bruxelles pour la politique agricole commune. Or, ce sujet comptait pour Rome autant sinon plus que les derniers détails de la négociation avec le Mercosur. En décembre, Meloni avait refusé de donner son feu vert à l'accord commercial avec l'Amérique latine pour se garder un moyen de pression sur la politique agricole commune. Le communiqué est donc un pas de plus vers le oui de l'Italie à l'entente avec le Mercosur, même s'il n'y a rien d'officiel. On avance, dit-on en substance au ministère des Affaires étrangères. Les agriculteurs restent réticents. Une manifestation est prévue vendredi à Milan. Mais parmi les organisateurs, il n'y a pas la Coldiretti, le puissant syndicat agricole proche du gouvernement. Dans le jeu de lobbying pèse aussi la pression de l'équivalent du MEDEF en Italie pour l'accord avec le Mercosur, dans un pays où les exportations représentent près de 40% du PIB.
Et pendant ce temps, en France, l'exécutif, désormais assez largement isolé donc sur la scène européenne, tente de faire montre de sa bonne foi en essayant de donner des gages aux agriculteurs. C'est ainsi que, pas plus tard que ce matin, Catherine Pétillon, un arrêté a été publié pour empêcher la vente dans l'Hexagone de plusieurs fruits et légumes traités avec des pesticides, même interdits en Europe.
Sont concernés les résidus de 5 substances interdites en Europe et qui sont présents dans certains fruits et légumes importés, notamment dans les pommes, les poires, les tomates, l'avocat, la goyave, les pommes de terre ou encore plusieurs agrumes. En tout, une dizaine de produits venus d'un peu partout dans le monde. C'est un arrêté dirigé contre tout pays qui traiterait les fruits et légumes avec une de ces substances, explique le ministère de l'Agriculture, lequel souligne que ce texte est indépendant du Mercosur. Il le présente néanmoins dans le contexte comme une mesure protectrice pour les agriculteurs, une manière de donner les gages sur ce sujet très inflammable de la concurrence déloyale. Les stocks de produits concernés ont désormais un mois pour être écoulés. L'arrêté demande également aux entreprises du secteur alimentaire de mettre en œuvre des contrôles afin de s'assurer que les produits importés ne contiennent pas les substances interdites en question. Le texte précise enfin qu'il est publié dans l'attente de mesures appropriées par la Commission européenne et pour une durée maximale d'un an. Mais si elle entre bien en vigueur aujourd'hui, cette interdiction doit néanmoins encore obtenir la validation de Bruxelles. La Commission européenne a 10 jours pour se prononcer et a 3 options devant elle, laisser le texte s'appliquer ainsi, le généraliser à toute l'Union européenne ou au contraire s'y opposer. L'annonce de cet arrêté n'avait pas vraiment convaincu les syndicats agricoles qui continuent leur mobilisation. De son côté, la Fondation pour la Nature et l'Homme estime ce matin que cette mesure partielle manque le problème systémique et appelle à faire du principe des mesures miroirs la règle pour toutes les substances interdites, tous les pays tiers et toutes les denrées agricoles.
C'est l'une des priorités affichées par l'exécutif pour cette année 2026, l'interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans, de même que l'usage des téléphones portables dans les lycées, et ce, dès la rentrée prochaine.
Oui, une bonne résolution, en somme, à en croire les nombreuses études qui attestent aujourd'hui des risques induits par une utilisation excessive des écrans par les adolescents. On citera notamment l'exposition à des contenus inappropriés, mais aussi le cyberharcèlement ou bien encore les altérations du sommeil. Reste à savoir, d'une part, si cette réponse à un problème complexe est effectivement adaptée, et d'autre part, si les capacités technique et humaine existe bel et bien pour faire respecter donc une telle interdiction. Le gouvernement doit présenter aujourd'hui son projet de loi aux responsables syndicaux de l'éducation. Longtemps mis entre parenthèses en raison de l'instabilité politique chronique depuis l'échec de la dissolution, le très sensible débat parlementaire sur la fin de vie a repris ce matin en commission au Sénat, dominé par la droite et où les réticences sur la création d'une aide à mourir persistent. De nombreux amendements ont d'ailleurs été déposés par la Chambre haute pour restreindre la portée de ce texte censé encadrer le suicide assisté et l'euthanasie, même si en l'occurrence ces deux mots ne figurent toujours pas explicitement dans le projet de législation défendu par le gouvernement.
Direction à présent Saint-Tropez pour un ultime adieu à Brigitte Bardot.
Oui, c'est là dans son fief méditerranéen que se tiennent depuis ce matin les obsèques de l'ancienne icône du cinéma devenue passionnariat de la cause animale, par ailleurs plusieurs fois condamnée pour des propos racistes et homophobes. Une cérémonie en comité restreint. Mathilde Vincent, bonjour.
Bonjour.
Vous vous trouvez sur le quai donc du Vieux-Port, loin des foules compactes des jours d'été. C'est là où est donc retransmise depuis tout à l'heure la cérémonie sur écran géant.
Oui, et alors que la messe est terminée, plusieurs centaines de personnes sont toujours regroupées sur le port, devant l'écran géant où on a pu voir le cercueil de Brigitte Bardot dans l'église, cercueil recouvert de fleurs oranges. Dans la foule, Laurine, elle est émue, elle a traversé la France avec ses deux chihuahuas pour dire adieu à Brigitte Bardot.
Au décès de Brigitte, moi j'ai beaucoup pleuré déjà, et puis je me suis dit qu'il fallait que je sois là. Et j'ai fait 1000 bornes pour venir lui rendre l'hommage éternel qu'elle mérite, quoi. Voilà. Au-delà de sa beauté légendaire, elle était quand même la plus belle femme du monde. Mais bien entendu que son combat pour les animaux est plus qu'incroyable.
Et puis sur le port, près des yachts, il y a aussi des habitants de Saint-Tropez venus rendre hommage à celle qui a rendu leur village célèbre, comme l'explique Nathalie.
Ça nous fait quelque chose parce que forcément elle fait partie de nous, Brigitte Bardot, vu qu'elle représente quand même Saint-Tropez. Voilà. Après, ben, on s'attendait à avoir beaucoup plus de monde, il n'y a pas grand monde, mais c'est bien parce que je pense que c'est ce qu'elle voulait, elle voulait être dans l'intimité, elle voulait quelque chose de simple et je pense que ça lui correspond bien, quoi.
Une cérémonie simple avec quelques personnalités invitées, la chanteuse Mireille Mathieu ou encore Marine Le Pen, la députée RN qui a salué une femme, je cite, libre et engagée. Le convoi funéraire a maintenant quitté l'église. Il se dirige vers le cimetière marin où Brigitte Bardot sera inhumée face à la mer.
Merci Mathilde Vinceneuve en direct de Saint-Tropez ainsi qu'à Julien Girard pour les moyens techniques. Mis à mal par un calendrier commercial déjà saturé de promotions, les soldes d'hiver s'ouvrent aujourd'hui dans un climat toutefois d'autant plus incertain pour de nombreux commerçants, souvent à la peine que la neige et les températures hivernales pourraient bien refroidir les ardeurs des premiers acheteurs. On termine avec un mot du temps pour cet après-midi. Le front neigeux justement continuera sa progression vers l'est. 21 départements au total ont été placés en vigilance orange. En revanche, le ciel restera calme et sec sur un large quart sud-est. Quant aux températures, elles seront comprises entre moins 1 et 10 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par Axel Dubois. Et à 18h, vous avez rendez-vous avec Stanislas Vazak pour le prochain journal de la rédaction.